Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode! Salut la team Extraterrien, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour un épisode fantastique avec Marc-Antoine Olivier. J'ai adoré enregistrer cette interview au studio à Saint-Ouen. Il est venu nous voir effectivement durant une petite pause puisqu'il vit en Italie depuis quelques années. Marc-Antoine Olivier, si tu le connais pas, c'est un grand champion de la nage en eau libre. Il a été médaillé de bronze en 2016 à Rio, il s'est pris une grosse claque à Tokyo, mais voilà, il a aussi cumulé plusieurs titres de champion du monde sur 5 km, sur 10 km. C'est vraiment un gros palmarès de la natation. Il s'est entraîné pendant plusieurs années avec Philippe Lucas, donc forcément, je lui ai posé quelques questions et on a pu discuter sur la difficulté effectivement de s'entraîner avec un tel entraîneur, mais aussi de la discipline. La nage en eau libre, c'est quand même une discipline hyper exigeante. Je me suis régalé parce que c'est un mec authentique, sincère, spontané. On a bien matché, on a bien rigolé. Il s'est pris des claques dans sa vie et c'est quelqu'un qui avance. Et moi, c'est le type de personnalité, en tout cas, qui m'inspire beaucoup et j'espère que vous aussi. Allez, je vous embête pas plus et je vous laisse avec l'épisode. Ciao! Et c'est une question que je me pose, tu vois, à quel point l'or, elle a eu...
Un impact sur notre sport ?
Ouais.
Énorme.
C'est vrai ?
Ouais.
Même sur toi ?
Bah oui, parce que si la natation, à ce moment-là, n'avait pas pris un pas vers l'avant grâce à des résultats comme l'or, après, il y en a eu d'autres, hein, plein d'autres générations. Nous, vu qu'on est un détachement de la natation course, l'eau libre, bah, on ne serait pas là. Donc, en fait, il fallait d'abord. On pouvait pas développer l'eau libre sans la natation. Ouais. Donc, s'il y avait pas eu de natation, il y aurait pas eu d'eau libre. Tout simplement.
Ok. Ouais. Ah ouais, non. Et puis.
Bah après, c'est mon point de vue. Peut-être bien que sûr. D'autres personnes. Parce que l'eau libre a bien existé bien avant la natation, je pense.
Ouais.
Parce que les gens s'entraînaient, bah pas s'entraîner, mais nager en milieu naturel. Donc l'eau libre, c'est depuis. Très très longtemps, c'est démocratisé, mais après professionnellement, on arrivait très tard. On arrivait aux Jeux en 2008 à Pékin, donc ouais. C'est quand même entre guillemets une nouvelle discipline.
Ouais ouais, bien sûr. Et tu le vois aussi sur, je sais pas, sur les jeunes ou dans les rôles modèles, parce que enfin, Laure, elle est aussi un peu sortie du cadre sportif, tu vois. Elle a été, ouais. Elle a eu les paparazzi, les trucs comme ça. Sa vie était un feuilleton, tu vois. Et donc, elle est un peu rentrée dans la sphère médiatique aussi. Tu sens ça que, ouais, ça vous a aussi propulsé, à être plus que des athlètes, quoi. Qui doit faire,
ah quoi. Oui, c'est sûr. Bah après, c'est le jeu, hein. Quand vous performez, bah les gens s'intéressent, et donc les médias s'intéressent.
Ouais.
Et après, ils scrutent de A à Z. Dès que vous faites un plus un faux pas, ils vont le marquer. Malheureusement, en France, c'est comme ça. Que quelque chose de bien, mais après, voilà, ça fait partie du jeu. Il faut faire avec. Hein.
Ouais. Bon, bah écoute, aujourd'hui, on va essayer de mentionner les bons pas. et on va essayer de vraiment, en tout cas, de le faire de manière intelligente. Et puis ça va être cool, ça va être un bon moment. T'es prêt?
Parfait. Allez.
Eh ben, allez, c'est parti. Comment tu préfères qu'on t'appelle?
Marco.
Ok.
Marc-Antoine, Marco. C'est pour m'engueuler. Moi, que t'as des choses à me reprocher, je serai. Non, Marco, c'est très bien.
Ok. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, j'ai exactement la même chose. Je dis à tout le monde, moi, c'est Bart, et Barthélémy, c'est si t'as quelque chose à me reprocher, quoi. Et ma petite amie, aujourd'hui, elle fait ça, quoi. Tu vois, c'est vraiment, quand c'est Barthélémy, c'est que j'ai pas fait un
truc. Tu te sauves.
C'est bien, au moins, tu vois, on est
d'accord.
On est d'accord. Ouais, et puis on est prévenu, tu vois, avant même qu'on nous dise le truc, on sait à quoi s'attendre. Oui. Ok. Eh ben, c'est parti, Marco. Je suis trop content d'être là. Merci d'être venu.
Avec plaisir. Merci pour l'invitation.
T'es tranquille là en Italie, personne te dérange.
Non, c'est à des bons et des mauvais côtés pour certaines choses. Il y a énormément de choses qui me manquent de la France, mais voilà, j'ai pris cette décision après Tokyo et puis moi, je la regrette pas parce que
ouais.
Ça s'appelle la vie, hein,
ouais.
Simplement.
Okay. Pourquoi t'as pris cette décision d'ailleurs?
Bah, j'avais fait 6 belles années avec Philippe Lucas. Franchement. La seule chose que je regrette, c'est de pas avoir conclu sur une médaille olympique. Mmh. Après, bon, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses derrière tout ça qui ont fait qu'on fait cette 6e place. Mais ouais, j'aurais voulu vraiment finir sur une belle note. Et je pense que, voilà, c'est ce que j'ai dit, ça s'appelle la vie. Il y a des moments dans votre vie où vous prenez des décisions, des fois c'est pas les bonnes, des fois c'est les bonnes, et je pense que bon, ça a été un peu un tout au jeu, quoi.
Ok.
Mais bon, voilà, ça m'a permis d'évoluer, et puis maintenant je vis dans un autre pays, donc on n'a pas tous la chance de pouvoir vivre dans un pays à l'étranger, et puis voilà, je m'éclate en Italie.
Ok. Bah écoute, c'est quoi, on va commencer direct là-dessus. Je te poserai le souvenir de sport après, mais qu'est-ce que t'aurais pu mieux faire sur ces jeux? Parce que tu vois, là, moi, je me souviens en 2021 avant Tokyo. Enfin, dès qu'on parlait de toi, c'était pour dire que t'allais gagner, quoi.
Ouais.
Et je me suis dit, waouh, la pression, il y a pression d'en faire quand même.
Ouais, bah j'ai pas. En fait, je l'ai plus transformé en. Ça va me servir en fait, parce que ça va me servir de mettre un impact psychologique sur mes adversaires. Et je me suis dit voilà, il va falloir servir au maximum de ça. Et puis malheureusement ça a pas suffi. Après les jeux, on sait que c'est vraiment une compétition à part. Surtout nous en Olympe, c'est du one shot. On a que 10 km. Donc souvent quand tu fais du bassin et que tu fais du demi-fond, maintenant t'as 800-1500, donc t'as quand même plusieurs courses pour, entre guillemets, soit te mettre dedans ou pouvoir te rattraper.
Ouais.
Mais nous, vraiment, c'est du one shot. Donc, si vous n'êtes pas prêt le jour J, à l'heure J, à la seconde près, et à la prise de décision qu'il faut prendre dans la course, vous êtes foutu. Et voilà, c'est des choses qui m'ont loupé pendant la course, parce que déjà, de 1, en y regardant, je pense que j'étais gourmand de me dire j'avais eu la médaille de bronze à 20 ans. Pour moi, j'avais qu'une seule chose en tête, c'était la victoire. Et en fait, au lieu de me dire ça arrive, hein, des fois vous n'avez pas le niveau parce que il y a d'autres athlètes qui ont un meilleur niveau ce jour-là, soit vous vous dites je fais une stratégie pour finir deuxième ou troisième et au moins monter sur la boîte et remporter une médaille pour la France et moi-même, non, j'étais têtu comme je suis un peu à l'entraînement et dans la vie de tous les jours et puis à cet âge-là aussi, parce que mine de rien, c'était il y a 3 ans, j'étais buté à me dire, non, il va craquer, et finalement, c'est moi qui ai craqué et je finis 6e, mais voilà, c'est des aléas de la vie, c'est des aléas de course. Et voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. Mais le tout, en fait, c'était pas de finir sur ça et de rebondir et trouver des nouvelles solutions pour à nouveau monter sur la boîte et j'espère bien aller chercher l'or à Paris.
Ben, c'est sûr, il n'y a pas de doute. Quand tu dis que tu es un peu têtu, c'est que tu avais une stratégie de course qui était hyper établie avant le...
Oui, j'avais plusieurs stratégies. Vraiment une qui, pour moi, qui aurait marché à 100%. Mais en fait, c'était pas comme toujours l'Allemand qui domine actuellement notre discipline, Florian Welbrock, avait travaillé sur deux courses que j'ai pas participé. Ça a peut-être été une de mes erreurs de dire, j'aurais peut-être dû aller faire une course avant, avec lui au championnat, avant les Jeux Olympiques pour voir un peu sa méthode pendant ce qu'il allait faire aux Jeux.
Mmh.
Et en fait, il a complètement surpris tout le monde, quoi.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Il est parti dès le début, ce qui se faisait pas du tout à cette époque-là. Maintenant, ce qui se fait sur chaque course, maintenant, c'est, ça part à fond du début à la fin. Mais avant de, on va dire, de 2015, quand je suis arrivé sur le circuit avec les seniors et jusqu'à 2021 où les jeux ont eu lieu, c'était vraiment progressif. C'est, on va pas dire que les deux premiers tours, souvent c'est entre 5 et 6 tours.
Ouais.
Donc en fait, on avait le temps de monter un peu crescendo. Donc on va dire que moi, dans ma tête, à chaque fois, c'était 2 tours un peu échauffement. Après 3-4 tours, je reviens et je me place correctement. Et 5 ou 6e tour où j'attaque et j'essaie d'appliquer vraiment la stratégie que je m'étais mis en tête pour la course. Mais et en fait, il est parti. Il fait le premier, comme pour vous dire, si je me rappelle un peu des temps. Premier 400 avec un passage de bouée à 200 mètres et sans virage, parti 3,56. Donc, pour ceux qui ont des références en bassin, je vais vous dire que...
Ça rigole pas.
Ouais, vous avez intérêt d'être bien échauffé et de le cœur accroché, quoi.
Ouais, ok.
Et en fait, tout le long, il a mis un rythme...
En plus, il faisait chaud, non?
Ouais, un rythme infernal. Et puis, ouais, l'eau a été... Je pense que quand on a plongé, elle était à 30,8. Et okay. Quand on a terminé, elle était au-dessus de 32. On a nagé très tôt le matin. Très, très, très tôt le matin. Il me semble que c'était vers les coups de... Si je me trompe pas, 6h30, 7h qu'on a plongé, hein. Et wow. Ouais, déjà il fallait habituer son corps à se lever très tôt, donc ça c'est une adaptation qu'on avait fait tout le long à un protocole qu'on avait fait que nos coachs et la fédération. Mais voilà, il y avait plein d'éléments qu'on sait en amont qu'il fallait préparer tout le long de la saison. Et après, est-ce qu'on l'a préparé comme il faut ou... Normalement, moi, l'eau chaude, c'est quelque chose qui me plaît, mais c'est vrai que il avait fait bien chaud pendant la course. Après, est-ce que j'ai eu un coup de chaud parce que je pense que j'avais pas prévu dans ma tête de faire un 10 km à fond, quoi.
Ouais.
Et c'est peut-être aussi une des choses qui m'a fait le plus pêcher lors de la course, quoi. De pas être forcément prêt à dire je vais faire 2 heures d'effort intense comme si que je plongeais pour un 1500. Parce que c'était des tours de 1666. Pour moi, à chaque fois, on m'a peut-être reproché de pas ravitailler, mais en fait, il fallait que avant de ravitailler et de penser à boire, il fallait juste que je respire, quoi. C'est comme si j'étais en bassin, ouais. J'étais en combinaison de bassin, je montais sur le plot, je faisais un 1500 à fond, je remontais et j'avais 5 secondes, entre guillemets, pour changer de combinaison, m'essuyer et je repartais pour un 1500 à fond. Sauf que, le dernier, j'ai pas tenu. Et ça a été un peu les sensations que j'ai eues de mon D-Born, quoi.
Ouais.
Et en fait, quand vous en pouvez plus, et en plus de ça, vous faites dépasser, c'est double choc mental, hein. Votre cerveau, il comprend pas, il y a plus aucune réponse au niveau de votre tête, de dire d'envoyer des informations qu'il faut remettre du jus, que ça va aller et tout. Et en fait, il y a trop de choses qui passent dans votre tête et ouais, c'est ça qui m'a fait le plus mal, quoi.
Ouais. En plus, c'est vachement psychologique, non? Vu que t'as la tête dans l'eau. Et moi, je sais que quand sur un triathlon, le moment où je gamberge le plus, c'est largement la natation.
Ouais,
quoi.
La natation. Ouais,
t'es en train de faire ta course, t'es en train de...
Ouais, c'est énorme.
T'es centré sur toi, tu vois, t'écoutes tes ouais. sensations. Ouais.
Exactement. Et surtout, pour dire que c'est psychologique, parce que il y a maintenant 10 jours, je fais une Coupe du Monde qui était qualificative pour les championnats du monde. Et en fait, au bout d'une heure, je me fais ouvrir l'arcade. Donc, moi, je le savais pas. Je savais que j'avais quelque chose parce que je voyais que je saignais à chaque ravito. Je voyais qu'il y avait du sang. Je savais pas que c'était exactement l'arcade. Mais en fait, ne serait-ce que quand vous ouvrez, par exemple, dans la vie de tous les jours, que vous ouvrez quelque part, vous saignez, vous sentez que vous sentez mal. Sauf que moi, j'étais en plein effort. Et je me dis que si mentalement, j'étais pas prêt à me dire que la course serait difficile, que je me suis entraîné pour, certes, je me suis jamais préparé avec une arcade ouverte, mais en fait, j'étais préparé dans ma tête à dire ça allait être dur et qu'en fait, quelles que soient les circonstances de course, quel que soit ce qui m'arrive, il y a toujours une solution à tout. Et il faut pas se laisser abattre. Et peut-être que j'aurais pas réagi comme ça si j'avais fait des bons jeux à Tokyo. En fait, même s'il y a eu des mauvais côtés et de toute façon, il y a eu des bons et des mauvais côtés, hein. Toute course n'est pas jetée complètement, mais en fait, le tout, c'est de savoir repérer ce qui vous a fait défaut et en fait, de l'améliorer et de changer les choses, soit à l'entraînement, soit dans votre vie de tous les jours, pour que ça soit plus un défaut, mais une force après.
Ouais, ok. Comment tu définis ta stratégie, toi, avant une course?
Alors, ça se définit à, suivant ce que vous faites à l'entraînement. Certes, on a tous des points forts, mais comme j'ai dit, par exemple, de 2015 à 2021, c'était vraiment un type de course qui était vraiment progressive. Donc, on tablait un peu les entraînements dessus. Mmh. Et après, tu travaillais vraiment ton point fort où tu disais, le moment, c'était, moi, avant, une époque, c'était d'attaquer vers les 3 km ou même à la moitié de course. Okay. De prendre les devants et de mettre un rythme suffisant que je savais que j'avais pas un gros sprint. Parce qu'à l'époque, il y avait le Néerlandais Ferry Wattman qui faisait aussi, qui dominait notre discipline, qui finissait, il attendait vraiment, last minute, quoi. C'était vraiment le chenal et il attaquait là. Il se plaçait au fur et à mesure, il remontait dans le ponton et il se plaçait pour, dans le chenal, faire le sprint et toucher, même si c'était même pas une seconde. Hein.
Ouais.
Mais il jouait, c'était sa stratégie de course et elle marchait. Mais moi, je savais que j'avais un moins gros sprint que lui. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire pour le battre? Il fallait l'épuiser avant pour qu'il y ait un moins gros sprint et qu'on soit à peu près égaux au moment de rentrer dans l'arche d'arrivée, quoi.
Ouais. Parce que vous terminez, franchement, dans un mouchoir de poche. Hein.
Ouais. Et puis, maintenant, de plus en plus, parce que t'as énormément de nageurs de bassin qui sont venus vers l'Olympe. Donc, c'est des nageurs qui nagent sous les 15 minutes. Facile, je suis sympa, au dernier 1500. Donc, en fait, si vous les usez pas un peu avant, en fait, ils vous ratatinent parce que...
Ils ont une super technique.
Ils ont une super technique. Ça veut mettre un coup de punch dans les 1500 derniers mètres qui sont les plus importants. Et si vous les avez pas utilisés un peu avant, vous savez qu'ils sont plus forts que vous. Donc, il faut vraiment trouver des stratégies pour faire en sorte que... entre guillemets, vous êtes au poker, vous avez une bonne main, vous faites en sorte de faire des relances et de faire en sorte que les autres ils se mettent au tapis pour que vous soyez tout seul à la fin, quoi.
Ok. Concrètement, comment tu fais? Tu prends les devants du peloton, t'essayes de faire en sorte que le mec derrière se mette pas trop dans ton aspi pour que...
Ouais, après,
pour
l'idéal,
le perturber.
C'est de se retrouver tout seul, hein. C'est un peu comme au vélo. Après, nous, on n'a pas des échappées comme on voit à chaque fois au Tour de France, mais... il y a tout le temps quelqu'un qui mène et après ça fait un peu en forme d'entonnoir parce qu'il y a les effets d'aspiration, ils sont énormément. Et puis en fait il y a des nageurs qui vont, on va dire maintenant plus les nageurs de bassin aiment pas être au contact, donc ils nagent vachement sur les extérieurs au cas où que s'il y a un peu trop de coups, qu'ils se sentent pas bien parce qu'il y en a qui se sentent pas bien d'être enfermés, donc ils préfèrent nager sur les extérieurs parce qu'ils ont plus de facilité. Moi, à une époque, j'aimais bien nager sur l'extérieur. Maintenant, être au centre, je trouve que c'est mieux parce que t'es vraiment protégé. T'as l'aspiration de devant. Tu peux prendre les vagues des nageurs. Donc, prendre une vague, c'est vraiment se mettre l'idéal. Il y en a qui aiment bien se mettre au niveau des chevilles. Mais je trouve que c'est un peu dangereux pour prendre des coups. Mais vraiment, moi, l'idéal, c'est au niveau de la hanche. Hanche, il n'y a pas mieux.
Donc, t'as la tête à côté de la hanche.
Ouais,
au
niveau de la hanche, ouais.
Ok. Et tu profites de son inspi, là.
Ouais, tu profites de son inspi, et puis c'était encore 2-3 personnes devant, et vous êtes entouré, là, vous êtes comme sur votre canapé quand vous regardez la télé le dimanche soir. Hein. C'est très bien.
je sais pas si moi je le fais, je pense pas que je serais sur mon canapé, je serais en PS.
Mais après, ouais, c'est des choses qu'on travaille à l'entraînement. Là, en plus, depuis que je suis arrivé en Italie, j'ai la chance de vivre bord de mer. On nage en bassin, mais on a deux entraînements en eau libre. Donc, on a juste à traverser la route et on a la plage. Donc, et puis, on a un très gros groupe. On est une vingtaine. On est tous en équipe nationale.
Du monde entier, en plus,
enfin, il y a
plus
non, de... beaucoup d'Italiens. Après, si, on a les Français, Allemands, Équatoriens, Brésiliens. Je dois en oublier, mais ouais, on a beaucoup de nationalités, mais vraiment, on a vraiment un très gros groupe, ce qui permet de faire même les entraînements, c'est un peu entre guillemets des mini-compétitions, donc c'est ce qu'on peut retrouver en Coupe du Monde et en Coupe d'Europe chaque année, donc c'est top pour de pouvoir s'entraîner. En fait, c'est une chance de pouvoir s'entraîner avec ça.
Ok.
Parce que c'est vraiment des conditions qu'on a à l'entraînement qu'on retrouve en compétition.
Ok. Pour le côté sportif, je vois vraiment l'intérêt d'être avec ses adversaires, tu vois, mais est-ce que psychologiquement c'est pas usant, tu vois, de tous les jours à chaque entraînement tu te retrouves avec potentiellement le mec avec qui tu vas jouer la médaille l'été prochain, tu vois.
Ouais, c'est sûr, c'est pour dire, je vais te dire deux exemples. Je vais te dire que c'est très dur et très bien à la fois, parce que très dur, par exemple, quand moi je suis arrivé en Italie, je suis arrivé dans le groupe de Gregorio Paltrinieri, un palmarès énorme, tu pourrais faire tout, tu pourrais tapisser le mur derrière toi avec ce palmarès. Okay. Mais c'est quelqu'un qui a une vitesse de nage en bassin, sachant que quand moi je montais en altitude, on nageait en petit bain. Et moi, le petit bain, c'est un enfer. Mais quand on fait des séries rapides et que ce nageur-là, il va nager si les gens ont un peu des références en natation, mais on va faire un 10 fois 400 à fond, il va nager 3,45, 3,44. Mmh. Et vous êtes à 4 minutes. Bah, en fait, vous prendre ça par jour, bah, moi, le dernier stage que je suis monté en altitude, donc en 2022, pour préparer le championnat d'Europe qui était en Italie, bah, en fait, j'ai tellement mal à la tête de voir ça tous les jours que je me suis dit, bah, là, il faut que je trouve une solution. Et j'en ai parlé à ma fédération et je suis parti à Forme, alors que j'étais dans le nord d'Italie. Mais je suis persuadé que si j'avais continué le stage, en fait, tous les jours à prendre entre guillemets des WC, des roustes, et j'aurais pas fait des championnats comme j'ai fait. Donc après, bon, certes, je me suis retrouvé à Formeux, j'étais tout seul, mais voilà, j'ai pu me focaliser sur moi et vraiment sur mes sensations et tout. Mais et en fait, ça a des bons et des mauvais côtés, parce que vous voyez un peu le niveau de vos adversaires, mais ça vous pousse aussi à vouloir les rattraper. Et ça aussi, c'est peut-être une des choses qui m'a manqué quand j'ai fait les Jeux de Tokyo, parce que j'étais dans un groupe où, à la fin, en fait, quelle que soit la série qui me donnait, je menais et je faisais tout devant. Et je me retrouvais souvent tout seul pour faire les longues séries. Donc, il manquait peut-être aussi ces petites choses-là où, peut-être que je poussais pas assez dans mes retranchements, parce que on est tous compétiteurs dans l'âme. Donc même à l'entraînement, je se pousse pour essayer de finir devant l'autre et voilà, à chaque fois de trouver des solutions pour s'adapter au maximum pour aller chercher la petite victoire, même si c'est à l'entraînement.
Ouais, mais tous les jours c'est usant, quoi.
C'est usant, mais après il faut vraiment identifier les entraînements où il faut faire ça. Parce qu'il y a des entraînements où il faut un peu entre guillemets lire ses sensations, et les entraînements où se dire il faut arrêter de réfléchir et il faut envoyer dedans. Et ça aussi, c'est
quoi, c'est un par semaine
où il faut vraiment envoyer dedans,
ou c'est certain,
j'en ai vraiment deux où c'est des séances de 10 km, c'est ce qu'on a un peu qu'on va retrouver en course, quoi. C'est pas du début jusqu'à la fin à fond, mais vraiment des blocs de série où à la fin faut être mort. Mais après, il va avoir des séances de récup, il faut s'appliquer sur la technique. Après, il va avoir des travails de force. Et vraiment, en fait, quand je suis arrivé en Italie, c'était complètement différent de ce que je faisais avec Philippe. Philippe, c'était vraiment du travail sur l'usure au quotidien, où c'est très dur. Et là-haut, vous savez que vous êtes indestructible, parce que franchement, pour avoir fait plusieurs coachs dans le monde et même un peu regarder à droite et à gauche quand j'ai voulu changer de structure, parce que les séries que j'ai faites avec Philippe, c'est les plus dures du monde. Après, est-ce que c'est les plus intelligentes? Ça, moi, je suis pas coach, je suis nageur, donc. Mais avec Philippe, j'ai fait des 10 x 1000, j'ai fait des deep boards non-stop. Il faisait 40 degrés dehors, l'eau était à 32. J'ai fait des trucs de tordus, quoi. Mais ce qui fait que aujourd'hui, psychologiquement, bah, c'est des acquis, quoi. Je sais que là-haut, pour me faire flancher, bah, faut y aller, quoi. Et peut-être que si j'étais pas parti avec Philippe, bah, j'aurais pas cette force mentale-là qui fait que, bah, que je peux même, avec mon nouvel entraîneur en Italie, bah, peut-être que je l'aurais pas acquis, tu vois. Peut-être que je serais pas aussi dur au mal sur certains entraînements, parce que j'ai tellement vécu des choses dures où je me suis mis dans le mal, quitte à pleurer dans les lunettes ou le soir de se remettre en question, de se dire bah est-ce que je retourne à l'entraînement. En fait, bah c'est des choses qui t'apprend. En fait, chaque entraîneur a ses spécificités, a des bons et des mauvais côtés. Hein. On est humain, mais voilà, et c'est pour ça aussi, je pense qu'il vraiment important de temps en temps de changer d'entraîneur ou que les entraîneurs parlent entre eux, parce que chaque méthode est pour moi est bon à apprendre, que ce soit dans la natation ou dans d'autres sports. On a tous des prépas différentes et là, plus en plus avec l'âge, je m'ouvre sur d'autres sports, voir ce qu'ils font, parce que bah, c'est important. Je trouve que c'est important d'être complet et après, c'est à toi de te faire. En gros, l'image de ce que tu as envie d'être et de se dire bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ce que je faisais avant quand j'avais 20 ans et que je récupérais à une telle vitesse, bah, je peux plus le faire, mais je peux le faire différemment par un autre chemin. Donc, non, c'est bien de se, bah, vraiment de se poser de temps en temps et faire un bilan de soi-même et se dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et voilà, c'est la vie.
Ouais, bien sûr. Simplement. Ouais, ouais, mais tu le résumes bien, quoi. Mais tu vois, quand tu vas voir un entraîneur comme Philippe Lucas, tu t'attends à morfler. Moi, je te disais en préparation d'interview, je te dis, mais moi, c'est le genre de mec qui me fait trembler, tu vois.
Ouais.
Tu sais, il y a plein d'auditeurs qui m'ont dit oui, invite-le sur le podcast et tout. Je me dis, mais je vais me faire croquer. je vais pas rigoler.
Avec les Mendia, il aime bien jouer de sa personne. Après,
Ouais, je pense qu'il se donne beaucoup une image. Je pense qu'il est pas comme ça.
C'est une image. Après, bon, il est comme ça au quotidien. Hein. L'entraînement, c'est très dur, mais, bah, Philippe aussi autour, il s'est fait rigoler, heureusement. Heureusement, parce que si c'était dur H24 et qu'il fallait pas rigoler hors de l'eau, ou qu'il savait pas te mettre un peu, entre guillemets, dans un mood où tu rigoles, mais quand il faut bosser, bah, il y aurait plus de nageur en ce moment même. Donc,
ouais.
Non, mais ouais.
Ça fait pas peur, ouais, du coup, quand on est jeune?
Bah, si, ça fait peur. Moi, je suis parti, je devais avoir 18 ans chez lui.
C'est ça que tu venais chercher?
Bah, en fait, je suis entre guillemets arrivé un peu par hasard chez Philippe, parce que j'étais à cette époque-là, je sortais du Pôle Espoir avec Eric Boissière, où vraiment, c'était à cette époque-là concentré sur Damien Carter-Vidal, qui était numéro 1 en eau libre. Et moi, en fait, je sentais que, pas que j'étais un poids pour l'entraîneur, mais que si j'avais envie d'évoluer, il fallait que je parte. Et c'est à cette époque-là, mon président de club, Yves Gudin, où j'étais avant à Denain Natation, où j'ai été formé, qui m'a dit, bah, moi, le seul entraîneur que je vois pour entraîner en demi-fond et qui a fait des résultats, si tu veux faire vraiment des résultats au niveau international, je vois que Philippe Lucas. Et donc, c'était au championnat de France, à Montpellier, en petit bain. Il m'a dit, bon, j'en ai parlé à Philippe, il veut te rencontrer après ton 1500. Je fais un 1500 exécrable. Je me suis dit, bah, il va pas vouloir me prendre dans son team. Et donc, on parle et il me dit, bon alors, qu'est-ce que t'en penses de ta course? Et je dis, bah, c'est pas trop ça. Il dit, bah, moi, je sais pas, je l'ai pas regardé. Donc, déjà, je fais bon. Donc, il me dit, bon, t'as envie de t'entraîner? T'as envie de faire quoi? Je dis, bah, moi, je me dis, j'ai envie de remporter les médailles. Il m'a dit, bah, t'as 48 heures, je t'attends à Narbonne. Donc, en une semaine, je me suis organisé pour faire mon déménagement de Rouen et à Narbonne. Et en une semaine, j'étais dans son team et je m'entraînais chez lui.
Waouh!
Ouais, mais c'est Philippe, en fait, ça va très direct. En fait, il ira pas par quatre chemins. Si ça lui plaît pas, bah, il va te le dire directement. Et si ça lui plaît, bah, il le dira pas parce que c'est averté. Voilà.
Ça m'étonne pas. Non, mais je veux dire, tu vois, pour un gamin de, excuse-moi, mais pour un enfant un jeune de 18 ans, on te dit, OK, dans 48 heures, tu viens là et tout, c'est,
Ah, c'est hard.
Tu prends un gros changement dans ta carrière, tu déménages, tu retrouves le top niveau mondial.
Ouais, oui, c'est un changement.
Faut s'organiser, quoi.
C'est un changement complet, parce que changement de vie, déjà. Je sortais de l'internat. Donc là, j'arrivais en appartement. J'étais encore plus loin de mes parents, parce que quand j'étais à Rouen, j'avais encore cette chance de proximité, parce que je suis du Nord. De pouvoir prendre le train le week-end, j'avais en 2h30 de train, j'étais chez moi, donc j'avais encore ce confort parental, et ce qui a été, je pense, un énorme boost dans ma carrière, parce que je pense que si j'étais parti directement loin de chez moi, parce que je suis quelqu'un qui est très familial, si j'étais parti loin de chez moi dès l'âge de 15 ans, je pense pas que j'aurais fait une carrière, que j'avais besoin encore de ce confort parental et de se dire, bah, si ça va pas, je peux encore rentrer chez moi, que partir vraiment à l'autre bout de la France. Mais en fait, j'ai fait tout step par step. Et voilà, ça a été un peu la vie où on m'a aiguillé un peu à droite et à gauche et ça s'est toujours bien goupillé. Mais en plus, pour vous dire, quand Philippe me dit, que tu peux rejoindre mon team, et ben ma mère a acheté le livre de Lorman Doux. Ma mère a dû lire le livre, elle a dû le torcher en même pas une heure. Elle me dit non, tu veux pas chez Philippe. Et je me dis bah pourquoi. Elle me dit bon, je vais te faire un résumé du livre de Lorman Doux. Je m'en souviens, elle avait fait une petite liste avec ce qui allait pas et tout. J'ai dit mais non, mais voilà, c'était dans ma tête, c'était acté. J'avais envie de là-bas, quel que soit. Ce qu'elle allait me dire, pour moi, c'était acté, je devais y aller, quoi. Je me rappelle que ma mère avait mis son veto en disant « Non, tu vas pas chez Philippe. C'est trop dangereux, ça va être trop dur, t'es trop loin de la maison, s'il arrive à quelque chose, on fait comment ?» Et finalement, je suis quand même parti. Okay. Déçu comme je suis.
Bon, c'était pas trop mal réussi.
Non, ça n'a pas mal réussi. Mais comme je l'ai dit, c'est la vie. Et la vie, c'est des rencontres, c'est des décisions et... En fait, il faut pas aller contre ça. C'est comme ça, ça fait partie de la vie et voilà. Même si ça va pas, il faut trouver solution et rebondir.
Ouais, bien sûr. Félicitations. Moi, j'aurais pas eu le courage. Clairement, je sais pas ce que t'as dit ta mère ce jour-là, mais moi, en tout cas, clairement, j'aurais pas été capable. On peut faire toute une carrière
chez Philippe.
Ouais.
Non, pour moi non. Trop dur mentalement, déjà de un. Physiquement, parce qu'après quand vous attaquez le mental et que ça va plus là-haut, bah après ça atteint, quand vous n'êtes pas bien en fait là-haut, bah ça atteint le physique. Donc non, trop dur. Trop dur. Pour moi trop dur. Et y a après, des... C'est possible, hein. Peut-être qu'il y a un jour quelqu'un qui fera mentir et j'espère pour lui. Hein.
Ouais, bien sûr. Et il y a des moments où il fait des compliments quand même. Tu vois... Pour moi, un entraîneur ou un manager, un leader ou quelqu'un tu vois, qui t'accompagne, il doit aussi être capable de cibler les moments où tu fais des choses très bien. Même les jours où c'est un peu dur, tu vois. Ou même tu sais, les jours où ça va pas, d'être capable de voir du positif, tu vois. Et effectivement, dans un peu ce jeu médiatique, tu as l'impression que c'est toujours pas bien, tu vois.
Pas bien.
Donc il y a un côté effectivement ultra motivant où tu te remets toujours en question, où tu vas toujours aller chercher un peu mieux, tu vas toujours être dans la performance et tout. Mais de plus en plus d'études que je vois sur le cerveau humain, il a besoin de reconnaissance,
ouais,
de félicitations, d'encouragement, de soutien. Et c'est des images qu'on montre pas de lui, tu vois. Et je me dis, c'est pas possible d'être un entraîneur aussi... titré, tu vois, si
il n'y a pas de reconnaissance derrière.
De reconnaissance.
Ouais, ouais, c'est sûr. Non, après, les médias, ils ont une image de Philippe, de quelqu'un qui est très dur. Donc, si du jour au lendemain, vous faites qu'un reportage où il dit c'est bien, t'as fait une belle série et tout. Ouais, déjà, de un, ça va moins vendre. Philippe va être moins content parce que vu que ça va moins vendre, il va être moins médiatique. Donc, non. Après, comme j'ai dit, c'est vraiment son rôle dans les médias. D'être dur, mais après, à l'entraînement, il est très dur aussi. Hein. Moi, des félicités, si j'avais 10 félicitations dans l'année d'une belle série. En fait, je pense qu'il te félicite à des moments où il voit que tu es peut-être à un point de non-retour et si je dis pas ces mots-là, bah, ça peut basculer dans le mauvais sens et peut-être plus le revoir aussi performant ou plus. plus aussi bien l'entraînement. Donc non, mais je m'en souviens que Philippe, il était toujours avant les compétitions, il avait toujours les bons mots. Franchement, ça, il y a eu quelques. Bon, après, on a eu quelques désaccords, ouais, beaucoup de désaccords, plus vers la fin de carrière, mais avec lui, mais à fin de carrière entre guillemets. Fin de carrière, oui, quand j'étais avec Philippe, mais je m'en souviens qu'au tout début, il y a toujours eu les mots pour, entre guillemets, te transcender, en fait, là-haut. Et que même, peut-être, tu te sentais pas bien ou tu pensais pas avoir fait toutes les choses qu'il fallait à l'entraînement, passer que tu passais un step émotionnel qui fait que t'étais imbattable. Et ça, pour ça, Philippe, il est extrêmement fort. Après, non.
Ça, c'est une qualité quand même.
Ouais, c'est une qualité. C'est pas évident de toujours trouver les mots nécessaires pour mettre en condition un athlète parce qu'on est tous différents. Donc, faut trouver à chaque fois les bons mots et les bonnes méthodes pour le dire.
Ouais.
Voilà.
Ok. Moi, je te vois comme un bourreau d'entraînement. Enfin, tu vois, après tous les nageurs en eau libre, je vous vois comme des machines de guerre. Comment t'organises ta saison par rapport au repos et que par rapport à tu vois.
Fois, je le vois différemment parce que avec l'âge, comme j'ai dit, on récupère plus aussi facilement qu'avant. Donc. Mais avant, tu vois, par exemple, avec Philippe, on avait 2 mois de vacances. Si on pouvait prendre 2 mois de vacances, en fait, c'était tellement dur toute l'année. Et vraiment, vraiment non-stop. On rentrait de compétition un dimanche soir. Il pouvait être minuit, 1 heure. Le lendemain, il fallait être à la piscine à 7 heures. Tu vois. Parce qu'un entraînement loupé, ce que je comprends, hein, mais je le vois un peu différemment maintenant. Mais un entraînement loupé, c'est un entraînement que ton adversaire a pu sur toi. C'était sa vision. Et se dire, si tu loupes un entraînement, ça fera... En fait, au fur et à mesure, si tu loupes, par exemple, 10 entraînements dans le mois, ça fait 80 km dans le mois. Quoi. Donc, c'est énorme. Surtout pour les distances de fond comme nous, le kilométrage, c'est quand même relativement important. Là, je suis plus avec un coach qui fait que la récupération, c'est important parce que au niveau musculaire, au niveau de la tête, si vous n'êtes pas bien, après, vous avez, à un moment de la saison, vous avez pêché et c'est pas le moment. En fait, plus vous vous approchez vers fin de saison, donc nous, notre saison, elle commence par exemple en septembre et vraiment les grosses échéances vont arriver vers juin, plus juillet, août. Mais... En fait, plus vous accumulez du travail au début de saison, mais qu'après vous pêchez, par exemple au mois de mars pour une blessure parce que vous avez trop charbonné septembre-octobre, c'est un peu du travail gâché. Alors certes, vous en avez accumulé avant, donc vous dites même si je loupe à ce moment-là, c'est pas grave parce que j'ai tellement bien travaillé avant. Mais maintenant, on est plus dans, vaut mieux peut-être faire un peu moins en début de saison, mais si on fait plus à la fin, on sera plus fort. Et je trouve c'est ce qui me va mieux en ce moment vu quand même mon âge, quand même j'arrive vers mes 28 ans, donc c'est plus quelque chose qui est adapté à moi à ce moment-là, de se dire je finis une compétition le dimanche, lundi matin j'ai pas besoin de me lever complètement de travers parce que je dois aller obligatoirement à l'entraînement. Donc je me lève tranquille lundi matin, je peux faire ma petite routine de pour récupérer, et puis lundi après-midi, on rattaque comme il faut l'entraînement. Même si toute la journée vous sentez pas bien, t'y vas pas et tu reprends mardi matin comme il faut. Ouais. C'est vraiment aux sensations personnelles et on a avec un coach où, si tu te sens pas d'aller à l'entraînement, faut pas y aller.
Ok.
Parce que ça met déjà de 1, vous allez y aller pour faire quoi? Déjà, vous allez mettre un mauvais mood dans le groupe. Donc, si ça se trouve, vous avez entraîné d'autres nageurs du groupe à moins bien nager parce que ils voient que vous souriez pas, que vous avez pas envie de vous échauffer, que vous avez pas envie de nager. Donc, ça va vite, quand même, un groupe d'une vingtaine de personnes. Donc, ils préfèrent que vous restiez chez vous. Limite, que vous fassiez un autre sport que ce jour-là qui vous plaît, d'aller faire du vélo, d'aller courir. Moi, je joue beaucoup au paddle. paddle tennis en Italie. Donc, vous allez faire un autre sport, mais au moins une activité qui pense qu'il peut vous servir plus tard que d'aller à l'entraînement et traîner des pieds et faire la grimace sous l'entraînement, quoi. Même pour lui, c'est pas agréable de voir quelqu'un qui tire la gueule. Le mec se lève là pour nous entraîner, pour donner le meilleur de soi-même, que nous, après, qu'on donne aussi le meilleur de soi-même. Pas là pour voir un mec qui souffre tout le temps et qui a pas envie d'être là, quoi. Ouais, parce que je comprends énormément.
Ouais. Toi, ça te va mieux, du coup?
Ouais, ça me va mieux, ouais. Ouais, parce que,
après les années à la dure,
où des fois, je pense que j'ai traîné beaucoup des pieds et que je soufflais beaucoup à l'entraînement et que je râlais. Bah ouais, mais après, pareil, c'était deux moments de ma vie qui étaient complètement différents. J'arrivais dans les coups de 18 ans. En fait, quand vous avez 18 ans, vous n'avez pas les mêmes façons de penser que quand j'ai maintenant, quoi.
Ouais.
Vous évoluez.
Ouais, tu sais pourquoi tu y vas maintenant.
Ouais, c'est sûr. Ouais. Alors que quand t'es jeune, tu te dis, j'ai le temps, ma carrière va être longue, mais il peut se passer tellement de choses, que maintenant, chaque moment est précieux et il faut vraiment le vivre à fond.
Ouais.
À fond.
Est-ce que on prend la grosse tête quand on est médaillé olympique à 20 ans?
Je pense que c'est.
T'avais 21 ou 21?
20 ans. 20 ans, j'étais le plus jeune médaillé de la délégation française à Rio. J'étais content. est-ce qu'on prend la grosse tête? Non, j'ai dû le prendre. Si je l'ai pris, je me suis fait vite recadrer par mon cadre familial ou ami. Heureusement, j'ai eu cette chance-là d'avoir vraiment un cadre protecteur et se dire, t'es un mec comme tout le monde, t'as travaillé pour l'avoir, félicitations, mais t'es pas Dieu, quoi. C'est pas parce que t'es médaillé olympique et qu'il y en a quelques-uns dans le monde, que t'es quelqu'un d'exceptionnel. Et puis, c'est pas l'éducation que j'ai eue. En fait, mon éducation, c'était de tout le temps rester poli et surtout de montrer aussi la gratitude de tous les gens qu'il y a eu autour de vous pour aller décrocher. Parce que certes, on a un sport individuel, mais tellement de gens dans l'ombre qui bossent derrière pour que vous soyez sur cette boîte-là et que vous pouvez représenter votre pays international. On les remerciera jamais assez.
Il y a eu du monde sur ton chemin.
Ouais, il y a eu du monde, énormément de monde. Parce que certes, je me faisais entraîner par Philippe Lucas, mais si j'avais pas mon club formateur qui était de natation, qui m'avait fait ma technique, je saurais pas nager comme ça. Si j'avais pas eu mon frère qui nageait, qui a 6 ans de plus que moi, avec mon père qui m'a emmené aux entraînements pour faire découvrir la natation, j'aurais pas fait de natation. Si mes parents n'avaient pas eu les moyens de pouvoir m'emmener aux compétitions, de m'emmener au pôle espoir, parce que si les parents, il y a énormément de sports en France où si les parents ils ont pas les moyens en départ, alors maintenant j'ai la chance d'avoir beaucoup de partenaires et de pouvoir limite faire plaisir à mes parents et les emmener avec des compétitions que même si je sais qu'ils ont les moyens de pouvoir y aller, moi ça fait plaisir de les emmener, mais en fait si tout ça au départ était pas réuni, comment on fait? Et je pense qu'on perd énormément de champions à cause de ça.
Ouais.
Parce que soit on n'a pas les structures, soit on n'a pas les moyens, en fait, au départ, de se dire, ce petit ou cette petite-là, elle peut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire en sorte de mettre en place comme cadre pour qu'un jour, ils viennent me remplacer ou qu'ils viennent remplacer une Norma Nodou, un Florent Manoudou, un Kylian Mbappé, quoi.
Ouais.
Et c'est ça, en fait, c'est ce qui manque un peu en France, mais. En fait, Florent, il a dit il y a maintenant quelques semaines, on n'est pas un pays de sport en France. Moi, je le vois en Italie, comme on est accueilli à chaque fois. C'est les opposés.
Ah ouais.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les opposés, ouais. C'est l'Italie, c'est un sport de. Mais en fait, vous pouvez le remarquer rien que au supermarché. Vous allez, je vais dans un Carrefour en Italie et un Carrefour en France. Bah, en Italie, t'as une grosse gamme de pour les produits énergétiques bah, au supermarché, quoi.
Mmh.
Pour avoir des protéines, pour manger vraiment bien, tu vois.
Ouais.
On n'a pas ça en France. On n'a pas ça, mais parce que voilà, c'est des. Bah, si il y a ça dans des magasins spécialisés, mais pas, tu vois, dans une grosse chaîne comme tu peux trouver à Carrefour, où c'est rare.
Ouais.
En Italie, vraiment. Et puis même quand tu pars en stage, quand tu pars en compétition, que t'es accueilli dans les hôtels, là, tu pourrais te prendre la grosse tête parce que t'as, même si tu fais que les entre guillemets que les championnats nationaux. Bah, pour eux, c'est quelque chose d'énorme parce que vous êtes au niveau national et que vous pouvez potentiellement représenter le pays. Donc, bah, en fait, les gens, ils sont admiratifs.
OK.
Et ça, c'est beau à voir.
OK. Et ouais, tu le sens moins en France?
Ouais, beaucoup moins. Ouais, ouais. Ouais.
OK.
Beaucoup moins. Parce qu'à chaque fois, quand la question préférée des Français, c'est à chaque fois que tu dis t'es sportif de haut niveau, on dit oui, mais tu fais quoi comme étude à côté? Alors quand tu vois en Italie ou aux États-Unis ou bah non c'est quoi tes échéances, c'est quoi ton palmarès, qu'est-ce que t'en c'est quoi ton rêve ultime en fait, bah t'es sportif de haut niveau, mais certes tu peux faire des études à côté, c'est très bien hein, ceux qui ont le double projet, franchement je les respecte énormément parce que ça prend un temps de ouf, mais c'est vrai que en France bah on est un pays littéraire,
ouais.
C'est, on est un pays comme ça. Et il ne faut pas le renier, hein. Pas le renier, parce que c'est ce qui fait la richesse et la beauté de la France.
Je lisais un truc la dernière fois, quelqu'un qui disait, ouais, en France, tu as 20 sur 20 en maths, on te dit bravo, tu vas faire quelle école, quel métier tu veux faire. Tu as 20 sur 20 au sport, on te fait une tape dans le dos et on te dit, tu sais que ça ne va pas te nourrir.
Exactement, c'est la nombre de fois que j'ai entendu.
C'est vrai, ça, on te l'a dit beaucoup.
Ouais, beaucoup, ouais. Quand j'étais au collège, au lycée. Même au lycée où ça s'est pas très bien passé, je me suis même fait virer et j'ai dû faire ma première, ma terminale par correspondance et que après quand vous faites une médaille olympique, bah toutes vos écoles vous rappellent pour venir passer un message aux jeunes alors que vous nous traitez un peu entre guillemets comme de la merde. Bah certes moi je le fais avec plaisir parce que il faut montrer l'exemple aux jeunes, En fait, que ça soit dans le sport ou même dans un loisir, voilà, dans de la peinture, la musique. En fait, je pense que tout le monde a un talent. C'est juste qu'il faut déjà le repérer, ce qui est pas évident. Et puis, il faut travailler, il faut avoir des rêves. Et en fait, quels que soient les gens qui vous disent que c'est pas possible par peut-être jalousie ou parce qu'ils s'en rendent pas compte, bah, si vous êtes convaincu et si vous donnez les moyens, bah, vous arriverez toujours à faire quelque chose. Et même si c'est un projet qui échoue à la fin, bah, le tout, c'est de rebondir. En fait, tout ce trajet de chemin-là, vous aurez appris des choses qui vous serviront dans un autre domaine. C'est pas perdu.
Bien sûr.
Donc, allez jusqu'au bout de vos rêves. C'est presque une chanson. C'est une chanson, d'ailleurs.
Allez, c'est parti. On sort la guitare, les instruments.
Et non, faut vraiment rien lâcher. Pas comme pour tout, même si t'es doué, faut travailler.
Qu'est-ce qui a fait que t'as continué, justement, quand t'étais au lycée et qu'on te disait ça paye pas le sport
J'étais
têtu. Comment tu t'accrochais?
J'étais têtu, non, après, j'étais têtu. Et puis, mes parents m'ont toujours dit les études, c'est important, le sport aussi, c'est important, mais va jusqu'à ton bac parce que. Quand tu auras ton bac, après, tu feras ce que tu veux dans ton sport. Tu feras le maximum. Ce qu'ils voulaient absolument, c'est que j'ai mon bac, au moins.
Tu passes le step,
ouais. Ouais. Au moins, si la natation, ça ne nourrirait pas, bah, je pouvais retourner en université. Comme j'ai dit, bah, voilà, ça aurait été un parcours de vie qui aurait pu me servir plus tard si j'avais pas réussi en natation. Et ça m'aurait servi dans les études, peut-être dans la rigueur de travailler, de savoir gérer mon temps, mon stress. Voilà, c'est des choses que j'aurais pu retrouver en université. Mais oui, j'ai toujours eu ces personnes-là autour de moi de dire, bah, après, il faut rien lâcher, il faut vivre à 100% ce que tu fais. Vraiment à 100%. Et même, en fait, ce que Quand je te l'ai dit, il y a des moments où avec Philippe, c'était vraiment dur, même encore moment. En ce moment, en fait, il se passe des choses dans le monde qu'on voit actuellement, ou même des travails qui sont hyper désagréables. Et en fait, j'ai une chance de pouvoir vivre de mon sport, de voyager dans le monde, de pouvoir en parler là aujourd'hui et de faire passer des messages. Donc certes, c'est difficile parce que peut-être je me suis privé de certains trucs. Et je pense que je me suis pas privé beaucoup de trucs parce que j'ai bien profité quand même de ma jeunesse. Mais non, j'ai une chance, même si c'est très dur au quotidien et que peut-être que tu souffres plus que certaines personnes, mais il y a tellement des choses mille fois pires dans la vie, donc
bien sûr.
Faut positiver et voilà, comme pour tout le monde, il y a des passes où tu es moins bien et voilà, il faut savoir sortir de ça et d'être bien accompagné.
Puis tu l'as choisi aussi.
Ouais, tu as choisi.
C'est plus facile quand tu choisis, je trouve.
Oui, exactement. Ouais. Mais l'accompagnement est énorme.
Ouais.
Si tu n'es pas là et que c'est H24 au quotidien tout seul, pour moi, un sportif qui se fait de A à Z, il doit en exister un ou deux. Mais pour moi, il y a tout le temps une équipe derrière.
Ouais, c'est bien obligé. Sûr. Je lisais un bouquin d'ailleurs qui s'appelle Atomic Habits en anglais et en français, c'est un rien peut tout changer en gros. Et c'est un bouquin sur le pouvoir des micros habitudes qui vont te rendre exceptionnel, tu vois. Et en gros, ce qu'il explique dedans, c'est que il y a aucun champion du monde ou il y a aucun entrepreneur à succès, aucun homme politique, tu vois, qui a réussi. Ou enfin, tu prends tout le succès dans tous les domaines, tu vois, les acteurs, les musiciens, les sportifs, les entrepreneurs et tout. En fait, sont que des gens qui ont cette capacité à construire leur environnement, en fait, tu vois, et à se rapprocher des bonnes personnes. Donc des fois t'as de la chance, c'est tes parents, c'est tes environnements proches, mais des fois c'est pas le cas, donc tu vas aller chercher des amis, un entraîneur, du conseil autour, tu vois, parce que en gros la théorie de ce bouquin, c'est que tu mets Usain Bolt, Kylian Mbappé, qui tu veux, tu vois, mais tu le mets dans un environnement toxique, tu deviens toxique naturellement, en fait.
Oui, exactement.
Avec le temps, tu vois. Et moi, ça m'a beaucoup fait évoluer, tu vois, sur ma vision de la performance. C'est en fait de me dire, ok, c'est petit à petit, tu t'entoures, petit à petit, tu construis, fais des petites habitudes qui te construisent. Ça va pas mal dans ce que tu dis,
puis, comme je dis, à 18 ans, j'avais peut-être bien aimé travailler avec certaines personnes que maintenant me conviennent plus. Et pas forcément parce que c'est mauvais, parce qu'en fait, vous changez de vision.
Bien sûr.
Sur votre préparation, qui fait que vous devez retrouver de nouvelles personnes pour avoir un nouveau encadrement stable.
Ouais. Comment ça se prépare, Paris 2024?
Ça se prépare plutôt bien. Ouais. J'ai vécu deux jeux où j'étais qualifié un an à l'avance, donc des prépas vraiment complètement différentes. Vraiment là, quel que soit... les courses que je faisais dans la saison, c'était la préparation. Donc, j'avais vraiment un gros objectif dans la saison, c'était les Jeux. J'ai plusieurs étapes pour me qualifier aux Jeux. Je suis pas encore qualifié aux Jeux. J'ai passé la première grosse étape il y a 10 jours sur la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde de notre saison, où il fallait faire top 2 français. Donc, je finis dans le top 2, donc très bien, avec une arcade ouverte, mais dans le top 2. Donc, le contrat est rempli. Et la prochaine étape, c'est les championnats du monde à Doha au mois de février. Où là, il faudra faire top 13 mondial. Et là, je pourrais faire la belle photo, j'espère, avec le ticket Paris 2024 et faire mes troisième jeu. Et après, là, ce sera vraiment sur trouver le maximum de courses et d'endroits avec les conditions qu'on va avoir dans la Seine. Donc, ça veut dire énormément de courant. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais le courant est vraiment énorme dans la Seine. Et je pense que si on n'est pas préparé en amont, c'est quelque chose qui peut peut-être pas bloquer dans les premiers tours. Mais vraiment dans ce qu'on appelle money time, moi j'aime bien ça, le money time, c'est-à-dire vers les 1000-1600 derniers mètres, c'est quelque chose qui peut faire pêcher et peut-être pas monter sur la boîte ou même chercher l'or. Donc ça serait bête de pas le préparer alors qu'on connaît les conditions et que c'est chez nous.
Ouais, bien sûr. Il y aura des dérogations pour que tu puisses nager dedans.
J'espère. En vrai, j'espère. Je sais que les pompiers de Paris, ils ont l'accès. Moi, étant détaché par l'armée des champions, donc je suis dans la marine, j'espère vraiment avoir l'accord de l'armée pour pouvoir nager dans la Seine. Après, deuxième step, c'est Doha. Après, je pense que les discussions sont plus claires et plus précises quand on sera qualifié. Donc, c'est en bonne voie.
Okay.
En fait, je trouverais ça bête d'organiser les Jeux dans notre pays et pas avoir l'avantage de pouvoir nager dans les conditions qu'on va avoir lors de...
Parce que du coup, rappelle-moi le parcours, ça va être des allers-retours, c'est ça, sur une boucle de
1 km. De 1666, je mène donc 6 tours, mais on part du pont Alexandre III, et on longe le quai de Seine d'un côté, et donc à la moitié, on fait une demi-tour et on tourne 6 fois comme ça. Bon, il y a le cadre.
Donc une fois t'as le courant dans le dos et fois t'as le courant tête face.
Face.
Ok. Et s'il pleut beaucoup la veille,
Il y a plusieurs plans. Ouais. Si ça pleut beaucoup la veille, on ne pourra pas nager sur les lieux. Donc soit la course décalée de plusieurs jours, mais vu qu'on a quand même fin de programme, ça va être compliqué. Donc il y a une solution qui a dû être prévue par Paris 2024, ça doit être dans un lac, mais je sais pas où.
Ce sera sûrement la base de Verre, je pense.
Aucune idée.
Ou Torcy.
Ouais. Bon, après, je pense qu'on a pas mal de bases de prévues. Et si tout se passe bien, maintenant, on devrait nager avec un bon fond décor à Tour Eiffel.
Ok. T'as le temps de profiter du décor ?
Non, quand tu nages, non. Mais quand tu découvres, entre guillemets, le parcours, tu kiffes bien, hein, Tour Eiffel. Ça va être sympa, quoi.
Vous allez avoir
un peu de chance, je vais nager avec une petite scieur côté droit.
Essaye de ne pas laisser ta main. Ouais. C'est jamais.
Non, ça va, c'est pas si méchant que ça. J'espère pas.
Non, normalement, ça croque pas, non.
Ouais, ça croque pas.
Mais
moi, je croque, par contre.
Bah, écoute, je te conseille pas de croquer dans une scieur parce que ça serait bien dégueulasse. Surtout une dans la Seine, ça doit pas être les plus appétissantes.
Ouais.
Va y avoir un public de dingue d'ailleurs, normalement.
Il y a pas mal de médias qui nous ont dit oui, ils font hyper tôt le matin, on va pas avoir grand chose. Moi qui ai vécu les jeux de Rio, la ville, elle vit H24. Il y a tellement de disciplines à toutes les heures que vraiment, si t'as vraiment envie de vivre les jeux, tu dors pas beaucoup en fait. Parce que quand t'es sur place, t'as envie de voir le maximum d'épreuves, t'as envie de vivre.
Ah, moi, c'est sûr, j'y serais. Enfin, tu vois, là, il y a quand même pas mal d'épreuves qui sont en dehors de Paris ou qui sont un peu loin, tu vois.
Ouais.
Là, c'est ouvert à tout le monde, c'est en plein centre.
Ouais,
c'est exceptionnel. Et puis, depuis le temps qu'on nous dit qu'on pourra nager dans la Seine, tu vois, je crois que c'est Jacques Chirac qui le disait déjà à l'époque. Donc, tu vois, ça nous rajeunit pas, tu vois, tout ça. Donc, on va essayer d'y arriver, quoi.
Oui. De toute façon, on va avoir du monde.
Tout qu'il arrive.
Après, moi, ce que je dis en rigolant, c'est que au pire, on aura ceux qui retournent de boîte de nuit. C'est pas grave. Faisons du moins qu'on a du public, ça fera toujours l'animation. Voilà.
Crie très fort aussi.
Peut-être qu'ils vont crier encore plus fort. Non, on aura du monde. Ah, c'est des jeux. Il y aura du monde partout.
Bien sûr.
Donc, on a hâte de voir ça. De toute façon, moi, c'est où j'ai vu le plus de monde. À Rio, je m'en souviens, Copacabana, tu voyais plus le sable tellement qu'il y avait de monde.
Ah ouais.
C'était incroyable. Bah, Copacabana de base, c'est la plage to be d'être au Brésil. Donc tout le monde était là un peu limite pour bronzer. Après, tu vois une discipline. En plus, il n'y a pas besoin de payer entre guillemets les billets pour voir la course. Donc après, les gens étaient hyper curieux de voir c'était quelle discipline, limite de découvrir la discipline, plus les médailles à la fin. Ah, c'était un kiff total.
Okay.
Et puis c'était folklore. Après, quand on faisait notre remise de médailles, derrière, il y avait, je sais pas, une centaine de bateaux qui se croisaient. On s'est dit à tous les coups, il y en a qui va se rentrer dedans, mais non, c'est le Brésil, c'est la fête. Voilà. C'est comme ça que c'était.
Bon, on va essayer de faire en sorte que ce soit pareil.
Bah oui.
Il y a intérêt.
C'est cool.
et ouais, tu disais, du coup, en Italie, on ne le sent pas trop, que les jeux arrivent.
Non, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas énormément de com. Et même, je trouve ça, moi qui viens quand même pas mal de fois sur Paris, même aux aéroports et tout, t'as du mal à sentir cette un peu effervescence de se dire qu'on va organiser les jeux, en fait. Et puis, en fait, ce qui met aussi un gros frein pour les étrangers, où j'ai eu pas mal d'amis qui voulaient venir, par exemple, pour les fêtes à Paris, c'est l'insécurité. Vraiment. Les gens ont peur. Au point de me dire, là, il y a quelques jours, j'ai envoyé un message à ma copine pour savoir si les places où ils allaient se rendre pour visiter et tout étaient relativement safe, quoi. Pour dire au point qu'ils mettent un peu leur parcours et qu'ils profitent pas de toute la ville. Ils se disent, on va aller de là à là et pourtant, il y a peut-être, pareil, il y a 1000 endroits magnifiques à voir, mais en fait, les gens, ils ont tellement peur de se dire, je peux me faire agresser, voler ou autre, que, ils profitent pas de la beauté de Paris. Donc, j'espère que ça sera pas le cas. On a encore quelques mois pour régler ça avant Paris. Et puis, même la sécurité pendant les Jeux va être énorme, mais. En fait, c'est ça, j'ai pas envie que les gens viennent au jeu avec la boule au ventre de se dire, j'espère qu'il se passera pas quelque chose, quoi.
Ouais. Tu penses que les gens l'avaient aussi pour Rio? Parce qu'il y a une réputation aussi.
Ah oui, oui, Rio, complètement. Complètement. Mais après, où ils ont, ça, c'est quelque chose, je me souviens, qui a été très fort médiatiquement, c'est qu'ils ont, ils avaient un peu fait des, comme on appelait ça à l'époque, des coups de poing dans les favelas. Des interventions dans les favelas, entre guillemets, ils disaient qu'ils les avaient nettoyés. Donc, je pense que c'était des gros coups de com pour se dire, maintenant, il n'y a plus de... Même si les favelas étaient toujours présents quand on était à Rio, mais après, voilà, il y avait une énorme sécurité, donc tu ne la ressens pas.
Ouais.
On ne l'a pas ressenti. Mais après, moi, j'ai refait 6 mois. Après, j'ai fait des championnats du monde militaire à nouveau à Rio. C'était revenu le vrai Rio, quoi. Avec quartier chic, et tu traverses une rue et c'est favelas, quoi.
Ouais.
Et tu te dis, à tout moment, il peut se passer une dinguerie, parce que eux, pour une bague, ils coupent un doigt, ou tu vois, les taxis, à partir d'une certaine heure, ils ont le droit de prendre les feux rouges parce qu'ils peuvent se faire braquer au feu par plusieurs jeunes à scooter. Donc, tu redécouvres le vrai Rio. Mais après, je pense pas que c'est cette image-là que nous, on veut laisser après Paris, que ça se passe pas bien pendant les Jeux. Ouais. Et qu'après, qu'on revienne, que ce soit à nouveau un désastre, quoi.
Ouais, c'est sûr. Mais je trouve Paris, tu vois, il y a tellement la pression par rapport, effectivement, tu vois, il faut que tout soit beau, que tout soit propre, que tout soit sécure, que les Jeux soient parfaits et tout, que... Ouais, je pense qu'on met la barre presque trop haute, tu vois. En plus, il y a le cousin Londres, la ville voisine, tu vois, Londres, où on n'arrête pas de dire que c'était parfait, que c'était nickel, que en plus les Anglais ont eu beaucoup de médailles. Après, quand tu regardes dans les chiffres, il y a une quantité assez importante de médailles qui viennent du vélo et du cyclisme sur piste, parce qu'ils ont vachement bien optimisé leur sport et tout. Tu vois, ouais, il y a la pression de dingue, quoi.
En fait, c'est une pression qu'on subit indirectement, parce que, en fait, quand on parle de la France dans le monde entier, en fait, ce qu'on voit, c'est personne classe, c'est la mode, c'est bien manger. Donc, c'est sûr qu'on attend de Paris que tout soit beau et rose, quoi.
Bien sûr.
C'est pas pour. Et regarde, il y a pas longtemps, il y a eu bien un mariage à je sais plus combien de millions à Paris. Donc, si les gens viennent à Paris, c'est que. Il y a quand même cette magie-là de venir à Paris. Donc, c'est sûr que les gens vont venir avec des attentes qu'ils ont peut-être pas forcément attendues quand ils sont allés à Rio ou à Londres.
Ouais.
Et après, Londres aussi, ils ont fait en 2012. C'était encore une autre époque. Quand même, là, il y aura 12 ans de plus, il y a des choses qui sont passées. On est quand même en train de vivre deux guerres, quand même. Donc,
c'est vrai.
Donc le monde évolue, malheureusement.
Je sais plus comment c'était à l'époque, la situation.
2012, j'ai pas souvenir qu'on ait eu des grands chocs qu'on peut avoir en ce moment même.
Ouais, écoute, on croise les doigts, hein, on touche du bois, on met les nœuds de main sur la table pour que ça se passe bien. Hormis effectivement sur la préparation là, tu disais tu vas avoir une préparation beaucoup plus courte une fois que les championnats du monde sont passés. Est-ce que tu vas mettre d'autres choses un peu en place particulières
Non, non, parce que je pense que le travail que j'avais effectué l'an passé avait très bien marché. J'ai fait une super saison. Hein. Bah d'ailleurs, le seul podium où j'ai pas fait, c'est sur la dernière Coupe du Monde. Bon après, il y a peut-être eu des circonstances de course qui ont fait que j'ai fini à cette place-là. Mais non, franchement, j'ai vraiment bien bossé la saison dernière. Et en fait, on a eu Denis Hauguin qui est dans les cadres de la fédération et qui a dit en début d'année, c'est pas parce que c'est les Jeux Olympiques qu'il faut inventer des choses. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait non plus rester sur ses acquis, mais en fait, vraiment bien accentuer les si vous avez fait des bonnes choses, en fait, peut-être pas faire le double, mais voilà, rajouter la petite chose qui peut faire le jour J, vous passez un cadre, mais en fait, ça sert à rien par exemple, l'année avant les Jeux, de passer à deux entraînements de plus ou faire plus de kilométrage. Pour moi, ça peut être, c'est un risque, mais ça peut être pris des bons et des mauvais côtés parce que peut-être vous allez avoir un risque de blessure, mais peut-être que c'est ce qui vous manquait la saison dernière pour aller chercher la victoire. Mais moi, je trouve que c'est bien de rester quand même sur ce qu'on a fait, sur le plan qu'on a effectué la saison dernière. Puis voilà, rajouter encore quelques petits trucs pour faire que jour J pouvait décrocher cette médaille-là. Pourtant.
T'auras fait combien de kilomètres entre le 1er janvier et le jour de la course?
C'est un peu une saison en étant les 4 000 km à peu près. Donc, vu que ça va être fin début août, ouais, on va être dans les 2000. Pas mal, hein. Mais encore en Italie, je nage beaucoup moins qu'avec Philippe. Pas beaucoup moins, entre guillemets, je dois être à 10 ou 15 km de moins. Mais
Par semaine?
par semaine, ouais. Donc, mais le travail est complètement différent. Parce que avec Philippe, c'était vraiment un travail qui était plus continu et tout le temps intensité à fond, en fait. Tu te levais et tu te couchais le soir et faites à fond pour tout. Te rhabiller pour. Non, je rigole pour manger. Non, non, mais du moins l'entraînement, il fallait être à fond. Alors que là, quand même, c'est beaucoup plus spécifique et basé sur ce que tu peux retrouver en course, sur un travail de force, sur force courte durée, sur du sprint. Ouais, c'est vraiment, vraiment bien, bien établi et détaillé. Et ce que je préfère maintenant, de plus comprendre l'entraînement que je comprenais avant quand j'étais avec Philippe. Mais voilà, j'avais pas le même âge et pas les mêmes envies et les mêmes attentes.
Bien sûr.
Quand j'avais 18 ans, je vais pas dire que j'ai un poil dans la main, mais il fallait me bouger un peu pour que en fait, j'étais un très grand, très très grand bosseur. Je pense que Philippe a dû le dire une fois, peut-être en interview. Je sais plus où, mais il a dû le dire une fois. Il pouvait me donner. En fait, du moment que j'étais dans ma tête, j'étais préparé à bosser. Pouvait me donner n'importe quelle série. Je la faisais, même si je pleurais ou je serrais les dents toute la série. Je le répète. Mais c'est vrai que des fois, bah, j'arrivais à l'entraînement, j'avais pas envie de bosser. Et quand j'avais pas envie de bosser, bah, tu vois, je faisais rien. J'allais entraînant des pieds. Alors que maintenant, bah, si ça m'arrive là, plus dans mon groupe, bah, tu vois, je vais faire autre chose. Je vais faire du vélo, courir, jouer au paddle. C'est deux visions d'entraînement complètement différentes.
C'est quoi tes autres points forts en mille travail?
Hormis le travail, stratégiquement, c'est pas pour me vanter, hein, mais je suis une grosse fouine. Vraiment. Vraiment, j'ai. Bah, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai commencé l'eau libre en 2012. Donc, j'ai vu des gens évoluer dans mon sport, j'ai vu différentes stratégies qui ont évolué au fur et à mesure des années et des générations. J'ai vu des gens arriver, performer, disparaître. Des gens qui ont disparu, qui sont revenus. Donc, en fait, quand je me présente sur le plateau, je pourrais détailler de A à Z leur stratégie, ce qu'ils ont en tête. Parce que j'ai tellement fait de courses avec eux que je vais te connaître leurs points forts de respiration, si ça va être du côté droit ou du côté gauche, quand ils vont avoir l'intention de partir pour attaquer, s'ils vont attendre la fin, s'ils vont vouloir partir dès le début, s'ils aiment bien les vagues, s'ils aiment bien le plat. C'est quand même un gros avantage d'avoir ce, entre guillemets, tous ces infos là. Donc
et tu puis notes, tu notes tout ça là?
Non, c'est dans ma tête. Et puis ouais, je sais, en fait je sais déjà un bien me placer, et puis j'ai ce feeling dans l'eau de limite rien que en nageant, de limite sentir un courant quoi. Et me dire, bah même si c'est pas le bon cap d'aller d'une bouée à une autre, bah si je fais un peu une courbe, mais si j'arrive à attraper du courant dans le dos ou par les vagues, je peux me faire ramener plus rapidement, mais même si au début je vais un peu galérer parce que je vais être à contre-courant, mais après je vais avoir le courant dans le dos, bah ça je vais savoir le repérer dans les premiers tours pour qu'ensuite je puisse m'échapper en faisant cette stratégie là. Ouais, je suis vraiment je suis pas pour me vanter, bon un peu quand même, mais
non mais il faut attends, non, mais je tu peux
mais vraiment c'est
déjà
c'est
d'une tu peux te permettre tu vois,
pour beaucoup de trucs j'ai vraiment ce feeling là de même quand je rencontre quelqu'un, de me dire si ça va bien se passer ou pas.
Ok, beaucoup d'intuition en fait.
Ouais, okay. Bah ouais, mais c'est important, je trouve que c'est énormément important dans mon sport.
Ouais ouais, bien sûr,
parce que tu peux pas être très fort et pas avoir ce ressenti de se dire bah à ce moment-là, si je prends pas la décision, c'est peut-être ce qui va me faire en sorte que je vais pas monter sur la boîte ou avoir une médaille. Donc, non, c'est les prises de décision à l'instant T. Pas.
Ouais, puis ça devient complètement naturel, en fait.
Ouais, ça devient naturel, mais après, si vous le travaillez pas avant, en amont de la course, soit à l'entraînement, en faisant un peu, entre guillemets, les stratégies que vous allez faire, ou la veille de course, de vous préparer psychologiquement, bon, il peut se passer ça, ça. Ça doit être naturel, vous n'avez pas à le faire à 100%. Mais par contre, si vous êtes prêt psychologiquement, en disant que bah, vous l'avez travaillé à l'entraînement, et en plus, vous l'avez préparé psychologiquement avant la course, en disant il peut se passer ça, ça. Bon, après, je veux dire, à part que vous soyez moins fort ou moins bien entraîné que d'habitude, peut, entre guillemets, rien vous arriver.
Ok. Est-ce qu'il y a un truc que tu referais différemment dans ta carrière?
Un truc que je referais différemment? Non.
Ou une décision que tu as prise que tu te dis après coup?
Ouais, décision à Tokyo, de pas être aussi gourmand, d'aller chercher la victoire et juste gérer la deuxième, la troisième place. Mais
parce que tu étais gonflé à bloc sur le pontoir.
Ouais. Ah ouais, c'est ça qui comptait, quoi. Comme tu as un dessin animé où tu vois deux médailles d'or dans les yeux, bah, moi je devais les avoir. Sauf que bah, je ne l'ai pas eu. Mais c'est comme ça. C'est l'effet de course et c'est la vie, en fait. Ce qui se passe, bah, ça devait se passer. Moi, je crois beaucoup au destiné. Donc, ce qui devait se passer, passera. Après, c'est de comment vous l'interprétez et comment vous faites en sorte que bah, vous avez plus envie que ça arrive ou pas.
Ouais.
Voilà.
Et qu'est-ce que toi, tu as mis en place, du coup? C'est beaucoup plus être capable de beaucoup mieux lire ton... Enfin,
ouais,
tu sais
très
bien lire. Moins gourmand au début?
Ouais, moins gourmand.
Accepter que le mec, il parte un peu et le rattraper peut-être plus tard.
Accepter d'être moins fort que quelqu'un. Après, c'est le sport. Hein. Il y a des jours, peut-être que vous étiez plus fort que lui la veille, mais le jour J, j'étais moins fort. Et c'était à moi de me dire dans ma tête, bah, tant pis, c'est pas ton jour pour aller chercher la victoire, mais tu pourras l'avoir un jour, peut-être, si tu bosses correctement. En fait, de pas être têtu, de se dire, bah, c'est lui qui va casser, alors que je savais très bien que, dès le premier tour, j'allais péter. Hein. J'étais tellement têtu et hargneux de me dire, non, c'est mort, c'est ça que je veux. Bah, que, peut-être que j'aurais pu attraper une deuxième ou une troisième médaille. Hein. C'est comme ça, c'est la vie.
Ok. Ouais, non, mais en tout cas, c'est pas toujours évident, tu vois, d'apprendre de ces échecs-là,
ah non,
tu
non,
vois.
Bah,
et surtout quand c'est un peu inhérent de toi, tu te dis, ok, en fait, l'erreur que j'ai fait, c'était de vouloir faire trop fort. Mais pour la première place, ce jour-là, il faut accepter, il était fort, quoi. Et le mec,
bah,
était
ouais.
imbattable.
Mais,
c'est dur d'accepter ça. Je trouve que ça demande beaucoup de courage.
Ah oui, c'est sûr. Bah, en fait, c'est, vous mettez devant un miroir et en gros, vous dites que vous êtes une merde, hein. C'est un peu ça, hein. Bah, moi, c'est un peu de...
C'est comme ça que tu l'as ressenti,
ouais,
peut-être.
Ouais, c'est comme ça que j'ai ressenti. Et en fait, surtout qu'au début, ça, avant que je fasse ce bilan-là détaillé et que, limite, j'ai aucune émotion à dire ce résultat-là, parce que c'est, franchement, ça a été le plus grand échec de ma carrière. plus grand, parce que je pensais qu'il pouvait rien. Franchement, je pensais qu'il pouvait rien m'arriver. Je vais pas le cacher. Hein. J'ai fait 6 ans où chaque été, je monte sur les podiums internationaux. Donc, en fait, pas monter sur la plus grande échéance, la deuxième plus grande échéance de votre carrière, ça fait mal, quoi. Alors que chaque été, vous montez sur la boîte, tout se passe bien, tout est beau, tout est rose, comme à Paris. Donc, non, c'était un échec de ouf. Et en fait, ce qui a été le plus dur aussi avant d'assumer, c'est que j'étais pas entouré en cas d'échec. Bah, j'avais ma famille et tout, mais j'ai trop honte d'en parler et dire que j'avais fait des erreurs.
Mmh.
En fait, et puis je ressassais en moi en me disant, mais putain, qu'est-ce que t'as foutu, t'as mal fait ça. Et heureusement, après, j'ai rencontré deux personnes extraordinaires qui m'ont sorti de ça. Et heureusement, parce que si j'ai pas rencontré ces personnes-là et qui m'avaient pas aiguillé dans certains sens-là, je serais pas en train de faire la natation.
Mmh.
Je serais sûrement, je sais pas, à Ibiza en train de faire la fête.
Ce sera ça l'année de pause.
Ah ouais, c'est...
Un peu faire la fête.
Ouais. En fait, je pensais que vraiment après Tokyo, je pensais que c'est ça qui allait me sauver. C'était faire la fête, penser à autre chose. Que le sport c'était bien, mais la fête c'était mieux. Donc, je m'étais vraiment recroquevillé dans ça en disant plus tu feras la fête, plus tu vas passer quoi. Ouais. Ça a passé, puis ça passait pas, et puis la vie a fait que tu rencontres certaines personnes qui disent que ça serait bien d'en parler, et puis t'en parles, et puis tu bosses dessus, et puis maintenant ça va mieux,
ouais.
Heureusement.
Tu fais un peu de prépa mentale ?
Ouais. Une époque, beaucoup, après Tokyo notamment. Maintenant, plus vraiment, si je tombe dans une période où je sens que je vais retomber un peu dans mes travers, je préfère lui dire et voilà, on en discute, on en travaille, et puis ça peut être une, deux séances, des fois, et après, plus rien pendant 6 mois.
Ouais.
C'est vraiment mes besoins.
Ok. Mais c'est fou, tu vois, à quel point, quand t'es au top niveau, je trouve, mais ça se retrouve aussi, tu vois, même à niveau personnel ou professionnel, tu vois, quand t'es sur la crête, parce que tu mets beaucoup d'intensité dans ce que tu fais, dans ton projet ou peu importe. Ou le jour où ça casse, si t'es pas accompagné, tu vois, la chute, elle est violente, quoi. C'est un peu ce que j'entends, tu vois. C'est que toi, t'as vécu.
J'étais têtu. Têtu, et pour moi, j'étais à chaque fois sur le toit du monde. Je pensais pas qu'on pouvait y descendre. Du moment que pour moi, je bossais chaque année comme un fou. Je pensais pas que ça serait possible.
Ça ne pouvait pas exister, quoi.
Et quand tu descends, ça fait drôle. Surtout quand t'es tout seul et que t'as pas de parachute. Donc, c'est comme ça, c'est des faits de vie.
Ouais.
Voilà, ça fait grandir.
Ouais, c'était avec Aurélie Muller que j'en avais beaucoup parlé.
Ah oui, Aurélie, elle peut sortir une saga Netflix.
Moi qui ai vécu
la saga Rio avec elle, c'était...
Ouais. C'est pas trop dur d'ailleurs, toi, d'être médaillé, tu vois, t'es le petit jeune, ça se passe bien, et en fait, t'as la taulière de l'équipe, tu vois, avec qui tu t'en... Ouais. Tu t'entraînais avec elle, non?
Ouais, je m'entraînais avec. J'ai fait toute ma saison de préparation avec elle.
Et donc...
Un an, on est parti en stage ensemble, en Coupe du Monde, Coupe d'Europe... On a même fait un stage avec nous deux et un coach à Brest. À Brest, c'était pas la meilleure des périodes. Il a fait que pleuvoir. J'ai pas dû voir le soleil. Et c'était terrible. C'était vraiment terrible. J'ai fait vraiment de cette année olympique de A à Z avec. Et on est arrivé au jeu. Et en fait, où elle a été extraordinaire, Aurélie, c'est que, elle a vécu sa course-là. Donc, on était loin du... Copacabana était très loin du village, il y avait presque 1h30 de route. Donc on avait pris des appartements sur Copacabana, pris par la fédération et le comité olympique, et on était en logé ensemble. Et en fait, le jour, elle nageait la veille de moi. Donc le jour, il lui arrive ce qui lui arrive, elle se fait disqualifier. Puis après, elle a essayé de faire les recours. Donc elle a été complètement, on a été dispatchés en deux groupes. Donc un staff qui s'occupait d'Aurélie. Mais en fait, où je la remercierai jamais, c'est que le soir même, ce qu'elle a vécu. Hein.
Donc, alors pour les auditeurs qui se souviennent pas, ouais, elle doit. Bon, elle faisait partie des favorites, ouais. Et au sprint pour la deuxième place. Donc elle touche, elle est soit deuxième, soit troisième. Les places sont assurées en tout cas. Et elle touche deuxième, en tout cas sur la vidéo. Et le juge la disqualifie parce que soi-disant elle aurait appuyé sur l'épaule de son adversaire pour aller chercher
deuxième place. Et en fait, en plus il y a tout le circuit médiatique où elle a dû expliquer. Ça, donc, ça a dû être horrible. Et le soir même, en fait, elle était là. Mmh. Elle était là, elle était toujours en mode compétition pour moi. Et en fait, ça, c'était un énorme soutien parce que, tu te dis, en fait, le lendemain, parce que, il pouvait m'arriver la même chose. Est-ce que si je fais une erreur, est-ce que on va être plus ou moins plus attentif sur moi, parce que Aurélie a fait ça la veille, donc tu te poses beaucoup de questions. Et non, en fait, elle a été de là, de A à Z, jusqu'à mon échauffement, jusqu'à la fin de course. Et ce qu'elle a dit, ce qui était énorme, c'est que qu'il fallait que je profite de la médaille, et que la médaille était à nous deux, en fait, tu vois. Et c'est des souvenirs inoubliables.
Mais c'est beau.
Tu vois, et ça, c'est une grande championne, parce qu'avec ce qu'elle a vécu, elle a su rester en mode compétition pour que moi, ça me touche pas et que je puisse rester dedans. Donc, fait, ça se trouve, Aurélie, elle serait partie de son côté. Peut-être que je n'aurais pas fait podium olympique. Hein. Et mine de rien, ma médaille olympique, ça a changé ma vie. Hein. Vous passez, entre guillemets, dans une autre sphère. Ça offre énormément de porc.
Ouais.
Mais non, puis Aurélie, elle a eu un parcours extraordinaire. C'est la première fille à être championne du monde sur le 10 km pour notre discipline. Donc elle a permis à faire connaître notre discipline en France.
Ouais, bien sûr.
Énormément.
Vous voyez encore ?
Ouais. Là, le week-end dernier, elle était encore à Funchal.
Ok, donc, trop bien.
Non, franchement, bah écoute,
Tu me feras une bise, ça me ferait plaisir de la revoir là. J'ai pas de nouvelles depuis un petit moment, mais on avait passé un bon moment aussi.
Ouais, mais c'est personne avec un grand cœur.
Ouais, bah je confirme. Est-ce que je termine sur les petites questions de la fin. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ta playlist de musique?
De tout, vraiment de tout.
Même musique. De la salsa brésilienne.
Non, j'aime tout.
Okay.
En fait, ça dépend mes moods. Des fois, mais j'aime bien quand même les musiques où ça bouge un peu.
Ok.
Chaleur des îles.
T'as un petit gris-gris ou un porte-bonheur?
Petit gris-gris ou porte-bonheur? Non. Non, en fait, c'est des gros gris, c'est mes parents. si j'ai mon contexte familial autour de moi, qui est là pour mes compétitions, pour me supporter et tout, c'est mon gros porte-bonheur.
Ok. Ils seront là à doigt?
J'espère, oui. Après, si ma mère peut voyager, oui. Après, ça dépend de son état de santé, mais j'espère.
On touche du bois. Bisous, maman. C'est quoi le dernier film que t'as vu et qui t'a inspiré?
Dernier film que j'ai vu. Ah, j'ai regardé Limitless. J'adore comme film.
C'est celui sur la pilule magique,
ouais,
là?
Ouais, exactement. Okay. Bradley Cooper, super acteur. Si je pouvais le rencontrer, en plus, il parle français, donc. Royal.
Ok.
Royal.
Bradley.
M'écoute, Bradley. On va dire boire un petit verre à Paris.
écoute, ouais, pas mal. S'il y avait un petit garçon là qui venait te voir et qui te dirait tiens Marco là j'ai 15 ans, j'ai envie de faire pareil que toi, tu lui dirais quoi?
Change de sport. Le pire truc au monde. Crois en toi et donne-toi les moyens de réaliser ce que tu te fixes comme objectif. Vraiment, crois en soi et bosser. Toujours bosser.
Il faut.
La culture du travail, il faut.
Et ben écoute, trop bien. La toute dernière question que je pose, c'est un peu comme un passage de flambeau. C'est plutôt un passage de micro d'ailleurs. C'est qu'est-ce que tu me recommandes d'aller voir pour parler un peu performance, bons souvenirs, souvenirs, apprentissage.
Qui je te conseille de voir Enzo Lefort.
Ah, oui.
Si il, a déjà
il est venu.
D'ailleurs, écoute, et maintenant, vu. Je crois qu'il s'est lancé sur un peu sur le même
émission.
Modèle, ouais.
Ouais,
ah ouais.
Il a lancé son émission.
Lui, que... pareil, il y a mille histoires.
Ok.
Mille histoires.
Tu le connais bien?
Je l'ai bien connu à Rio.
Okay.
Après, bon, maintenant, il est sur Paris et puis surtout sur mille projets. Mais ouais, non, très belle personne.
Écoute, ouais, il faut qu'on se revoie. En fait, on s'était eu au tout début du Covid. Donc déjà, ça faisait un moment. Et à l'époque, les logiciels d'enregistrement de podcast à distance, on se voyait même pas, tu vois.
Okay.
Donc c'est comme si on était au téléphone, on avait fait un enregistrement pendant une heure, tu vois. Et bah, c'est pas pareil, ça a pas
ouais,
la même saveur, tu partages pas les mêmes choses. Puis j'étais au tout début, tu vois, moi je bégayais encore.
Ouais,
j'étais là
évident,
avec
hein.
J'étais là avec ma fiche.
Un peu de pression et tout, ouais, ça va vite. Hein.
Ouais, exactement. et en plus, je venais d'être papa, donc je faisais des petite nuit. J'avais des nuits de 3-4 heures dans les pattes, tu vois. J'ai à peine des souvenirs de cette interview, tu vois.
D'accord.
Donc j'irai le recontacter, carrément.
Parfait.
Merci Marco.
Bah, merci à toi.
Et puis, on se dit, c'est quand la course, déjà?
Alors, début février. Alors, moi, les dates, bonne question.
Ok.
Début février.
La prochaine
ouais. La prochaine, ouais, championnat du monde de Doha.
Ok. Voilà. Eh ben écoute, on va suivre ça avec impatience.
Bah,
et puis, je te dis à bientôt, parce que comme on dit par chez moi, il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas.
Ah, voilà. Bon. Bah, parfait, à bientôt alors.
Ciao.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.